Mon affection et mes vœux n'ont pas changé. Mais un mot de vous m'imposera le silence à jamais. Si votre inclinaison avait toutefois changé, il me faudrait vous dire que depuis avril, corps et âme, vous m'avez envoûté, que je vous aime à la folie et souhaite ne plus jamais être séparé de vous.
Dans ce cas, vos mains sont froides.
Le gars qui fume dans le rétro.
Suivant! Allez, on l'aime pas la cigarette, là, on lui casse la tête! Suivant!
Ah, dégage!
Et voilà, et donc on écoutait un extrait de Pride and Prejudice. Donc une scène de séduction entre les deux personnages principaux. Alors je ne me souviens plus du film, donc des noms des personnages. Et on écoutait le pari, hein, ce film où les deux inconnus, Didier Bourdon, et alors je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais enfin, en tout cas, ils font le pari d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de fumette, on parle de la masturbation féminine. Et comme vous le savez sûrement, Alice et Angelina, et pas les auditeurs du jour qui ne connaissent pas notre grille, mais demain, c'est le retour des émissions spéciales, des émissions thématiques, et en particulier cette semaine sur la santé. Et donc, la santé des femmes demain, et je vais aborder justement un sujet de santé des femmes, mais qui pouvait sembler tabou au XVIIIe siècle, et qui va faire frémir les moralistes qui vont se retourner dans leur tombe. Aujourd'hui, je vous parle de l'onanisme féminin, ou ce qu'on appelle plus couramment la masturbation féminine. Alors, on pourrait s'étonner que ce soit moi qui aborde le sujet, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'étudier au cours de mon parcours d'étudiant. Je parle bien sûr dans sa dimension historique, je vais tout de suite éviter les mauvaises langues. Alors il faut savoir quand même que dans l'histoire, la masturbation féminine n'a pas toujours été très bien vue, et même par la caste des scientifiques, à quel point que des traités médicaux sont sortis sur l'onanisme au cours du XVIIIe siècle. En effet, certains considéraient que les conséquences de la masturbation étaient néfastes pour les femmes, qui s'enferment alors dans leurs imaginations et ne remplissent plus leur rôle. Rendez-vous compte du crime, l'oisiveté, le fait de ne plus rien faire, et comme Eva Bovary de Flaubert s'enfermait dans la lecture des romans. D'ailleurs, un médecin des Lumières, Christophe Willem Ufland, appelle onanisme moral le fait d'être corrompu par la lecture qui serait la cause de la masturbation. Bon, il y a tout de même un bon point, c'est que la masturbation n'est plus considérée à cette époque comme un acte mécanique et dénué de sens, et avec l'apparition de la doctrine vitaliste, on considère que celle-ci est affectée par des facteurs extérieurs. Et pourtant, on pourrait penser que le vitalisme va dans le sens de la masturbation, dans le sens de ce qui pourrait être une liberté puisque c'est un acte qui devient conscient. Mais non, les scientifiques pensent plutôt que c'est une pathologie, et pas seulement pour la santé des femmes. Eh bien oui, réfléchissez bien, si les femmes se masturbent en lisant des romans, comme Madame Bovary voulant échapper à son vieux Charles, les hommes vont avoir envie de faire pareil et vont se féminiser. Ouais, bon, c'est vraiment grave, et là c'est le chaos, c'est la stasis en grec, il n'y a plus de distinction naturelle entre l'homme et la femme, et c'est vrai que les questions de genre à l'époque c'était la distinction sexuée, fallait pas jouer avec ça. Mais si on revient à l'article donc en question qui parle de l'onanisme, très critique évidemment dessus, on peut aujourd'hui le retourner pour en voir les points scientifiques. Pardon, je n'ai pas présenté l'article, c'est celui-ci de la santé des gens de lettres de Monsieur Tissot. Bon, visiblement, se masturber n'est quand même pas donné à tout le monde, encore faut-il avoir les moyens de s'acheter un bouquin, de le lire, donc d'être une bonne aristocrate ou quelqu'un qui a les moyens de se le payer. En tout cas, Monsieur Tissot nous alerte, et il dit qu'une fille qui a 10 ans lit au lieu de lire... elle lit justement au lieu de courir, et la femme ne fait plus une bonne nourrice quand elle lit le soir. Et puis Monsieur Tissot soulève un problème que les jeunes connaissent bien, le manque de sommeil, puisque la femme qui se masturbe, bien sûr, y passe des heures, et ainsi celui-ci s'inquiète de celle-ci qui veille très tard pour satisfaire ses passions. et qui, le lendemain, eh bien, ne peut pas faire les tâches domestiques. Et oui, bah, c'est le rôle de la femme à l'époque, merde, quoi. Un peu comme nous, le matin, quand on est à la radio, des fois, on est un peu fatigué, voilà. En tout cas, la masturbation provoque, selon lui, des souffrances terribles, bien loin d'un moment en dilettante. L'article parle ainsi de vapeur hystérique affreuse, de jaunisse incurable, de crampes cruelles et de fureur utérine. Mais alors, concluons. La masturbation est-elle un mot pour les femmes, une terrible dégradation sociale? Ou, ah, bah alors... ou justement un moyen d'émancipation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne l'avais pas écrit, mais c'est pas grave. On peut déjà rappeler que l'article est écrit par un homme pour parler d'un acte particulièrement privé, mais ça, à l'époque, on en avait un peu rien à foutre. Mais enfin, quand même, la masturbation, c'est bien pratique pour échapper aux différentes autorités de l'époque, l'espace d'un instant, l'autorité du mari, d'un maître. Voilà, c'était vraiment un moment privé qui restait pour soi-même. En tout cas, le mot n'existait pas à l'époque du XVIIIe siècle, mais ça permettait sûrement aux femmes de s'évader et de quitter, pourquoi pas un instant, la charge mentale. En définitive, ce qui compte véritablement, c'est que la communauté des femmes qui se masturbent constitue une communauté interprétative. Elles pensent par elles-mêmes.